Il y a 15 jours, on a eu la rencontre des hommes. Et à la rencontre des hommes, j'ai parlé de l'Apocalypse, comment lire l'Apocalypse, ou plus exactement, vu mes compétences, j'ai plutôt dit comment ne pas lire l'Apocalypse. Parce que c'est quand même un livre extrêmement complexe. Mais ce qui m'a frappé, ce que j'ai envie de communiquer, il y a une manière de lire l'Apocalypse dont j'ai parlé aux hommes, c'est de réaliser que l'Apocalypse, en fait, c'est une lettre que Jean écrit à des églises. Et on n'écrit pas une lettre à quelqu'un sans raison. Une lettre, elle a un but. Et pourquoi Jean écrit cette lettre à ces églises? Ben, c'est parce que ces églises sont dans des situations difficiles. Il y a vraiment des... On n'est pas dans le règne de Néron. Ben, quand il y a un fou au pouvoir... C'est pas très rassurant. Et puis, c'est une période où commence la persécution. Jean lui-même, il est, semble-t-il, en exil sur l'île de Patmos. C'est donc des moments difficiles et ils ont besoin d'encouragement. Pourquoi est-ce ? On peut dire ça avec assurance, c'est parce que Jean, il commence par dire à ses églises quelles sont leurs difficultés. Il va leur dire où ils en sont. C'est quand même inquiétant. Alors, vous les connaissez, hein. Éphèse, c'est une église qui est fidèle, mais qui est fragile, qui est en train d'être ébranlée. La suivante, Smyrne, c'est une communauté qui est fructueuse, mais qui est au milieu d'une détresse et d'une persécution terrible. Pergame, elle est fidèle, mais c'est plein d'affrontements culturels dans cette église et ils sont la cible d'enseignements vraiment destructeurs. À Thyatire, c'est une église qui grandit, on se réjouit, mais il y a beaucoup d'immoralité et de division. Sardes, c'est totalement superficiel, plein d'illusions, mais il y a quelques exceptions. Philadelphie, il y a une fidélité générale, mais c'est tout petit. Et puis Laodicée, c'est plein d'illusions, de superficialité, comme mort. Ben, ce n'est pas un tableau très encourageant et on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin d'être tenus là au milieu. Et puis si on réfléchit, cette église, elle représente quelque chose de l'état de l'église dans toute l'histoire. Aujourd'hui encore, il y a des belles choses. Mais il y a quand même beaucoup de faiblesses, beaucoup de soucis, beaucoup de fragilité, beaucoup de... On peut être inquiet et on a besoin d'être porté. Et puis en même temps, dans ma lecture du matin, maintenant je suis dans le livre de Job. Job, c'est l'homme qui a fait tout juste. Et puis rien ne marche. C'est un effondrement, épreuve sur épreuve. Et quand on lit les longs chapitres de Job, on voit Job qui est sans arrêt en train de s'interroger. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Où j'en suis? Pourquoi Dieu? Moi, je me disais aussi, où j'en suis moi? Je ne suis pas dans une situation difficile, mais on a quand même une... Comment dire ça? Je ne sais pas si, comment vous êtes, mais moi, je suis quand même souvent déçu de moi-même. Je connais Dieu depuis 60 ans, pour ne pas dire 77, parce que... Mais quand même, où j'en suis? L'Église, quand même, où elle en est? On est censé être le corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu fait pour qu'on soit les témoins réels? On peut se poser des questions, et ces hommes se posaient ces questions. Je crois que c'est une vraie question. On a tendance à l'éviter un peu, on n'y pense pas tellement, mais de multiples manières, on est déçu par Dieu. De multiples manières, il y a des choses qu'on repousse derrière, des points d'interrogation qui existent, mais finalement, ça plombe notre foi. Comment surmonter cette déception face à la réalité? Dans l'histoire de Job, il y a des amis qui veulent l'aider, mais ils sont complètement à côté. Ils disent des choses vraies, mais ce n'est vraiment pas le point. On a beaucoup de peine à trouver des encouragements dans ce sens. Mais c'est là que l'Apocalypse vient nous aider. En fait, Jean, quand il écrit l'Apocalypse, c'est pour dire, voilà la situation décevante dans laquelle vous vous trouvez. Eh bien, moi, je vais vous donner des vrais encouragements. Et comment ? Mais d'abord, il faut bien lire l'Apocalypse. Hein. Si on le voit comme un livre qui nous parle d'un futur encore lointain pour Jean, un peu moins lointain pour nous, mais un futur, ça ne va pas nous aider beaucoup. L'Apocalypse, c'est le regard du ciel sur les circonstances que l'on vit. C'est le regard du ciel sur les églises. C'est le regard du ciel sur toutes les histoires. Et je crois que c'est là qu'il y a la vraie ressource face à ces interrogations. L'Apocalypse, donc les trois premiers chapitres parlent des églises, et au début du quatrième chapitre, il est dit « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici, et je te fais voir ce qui va arriver par la suite. » On ne comprendra jamais ce genre de choses sans monter au ciel, sans voir les choses, pas avec notre regard humain, notre logique humaine, mais comme Dieu les voit. Et c'est exactement ce que l'Apocalypse essaye de faire. Il faut le lire comme ça. Où est Dieu quand on est dans ces interrogations face à la réalité de ce qu'on vit autour de nous et en nous. Où est Dieu ? Je vais juste prendre un seul passage de l'Apocalypse qu'on va essayer de voir un tout petit peu entre nous. Et c'est celui qui m'a vraiment réjoui et qui m'a intéressé et que je trouve qu'il est nécessaire de lire et d'entendre. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi, ça m'a parlé. C'est le chapitre 5, 6 et 7, je dirais. C'est l'histoire, si vous vous souvenez, c'est les sept sceaux qui s'ouvrent. Il y a un livre fermé, et puis il y a les sceaux qui vont s'ouvrir les uns après les autres, dans un langage qui nous échappe beaucoup, mais qui est très parlant. Alors, premier cliché, je vais vous lire un premier passage, voilà. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à sept sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Il y a un livre qui est fermé. Comprendre ce qui se passe dans l'histoire, comprendre ce qui se passe dans nos vies, comprendre ce qui se passe dans l'Église, comprendre ce qui se passe dans toute la réalité de la création, c'est un livre fermé. On n'arrivera jamais à comprendre cela. Ça nous dépasse complètement. Et c'est triste, on aurait besoin. Jean, il pleure quand il voit que personne ne peut ouvrir ce livre. Et on peut pleurer quand on est devant les interrogations dans lesquelles on se trouve souvent, dans nos propres vies, dans la vision qu'on peut avoir de l'Église, dans nos pays, dans la situation des fois tellement douloureuse de familles qu'on connaît. On peut se poser des questions, on peut pleurer, on peut se décourager. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un livre qui peut être ouvert. Il est fermé, mais il peut être ouvert. Et c'est les versets suivants, deuxième slide. Alors un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Ouais, Dieu ne veut pas nous laisser dans l'obscurité. Il sait qu'un livre fermé, c'est difficile. C'est un mystère et ça nous plombe. Il veut l'ouvrir. Et tout l'Apocalypse va essayer de nous ouvrir les yeux à la réalité telle que Dieu la voit et telle que le ciel, je dirais, le voit. L'Apocalypse, c'est tout un chemin de justice et de jugement pour l'humanité et un chemin de salut pour les enfants de Dieu. Et comment vivre ce contraste de salut, de jugement, de lumière, d'obscurité? C'est ce mystère que Job rencontre. C'est ce mystère qui nous confronte souvent. C'est compliqué. L'Apocalypse est difficile à lire. Ben, on peut le comprendre. S'il veut nous expliquer ce qui vient, comment le ciel voit la terre, ça ne va pas être très simple. C'est un livre fermé qu'il faut ouvrir, mais ce n'est pas facile de l'ouvrir. Mais voyez, il y a quelqu'un qui peut ouvrir le livre. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout comme offert un sacrifice. Il y a ce contraste bizarre. On annonce un lion, puis on voit un agneau assez particulier. Mais on sait que ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est puissant, celui qui gouverne toutes choses, mais il est aussi l'agneau qui a été offert en sacrifice. Alors maintenant, ce livre va être ouvert, c'est-à-dire que les choses vont être expliquées et comprises. Chaque fois qu'un sceau s'ouvre, ce n'est pas un événement qui arrive, c'est un éclairage qui est donné, une compréhension sur les choses. Vous voyez, il ne faut pas voir ça comme une espèce de chronologie de je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une histoire de quatre cavaliers qui se suivent. Et on parle des cavaliers de l'Apocalypse comme étant quelque chose de militaire. Non, c'est une vision pour comprendre. Et on va lire ces passages. Je vis alors l'agneau ouvrir un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» et un autre cheval rouge feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main et j'entendis une voix dire au milieu des quatre êtres vivants « Une mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Il fut reçu le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Quand on lit ça, on se demande qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire. C'est pas clair, mais c'est pas si compliqué que ça. Et un peu de réflexion aide quand même. Un cheval avec des cavaliers, qu'est-ce que ça fait penser à quoi? C'est une image des chevaliers, c'est une image militaire, c'est une image qui nous parle. Le premier, il a un arc, donc c'est militaire, une couronne lui fut donnée, il domine, il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Ça nous parle de violence, de victoire, de combat, d'avance par la force. Et je crois que ces cavaliers, ils nous parlent essentiellement de violence. Et le premier cavalier, il sort pour remporter des victoires. Et je pense que les trois cavaliers suivants, ils expriment un peu le résultat du premier cavalier. La violence, on sort pour vaincre. Ben, le premier cavalier, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez toujours ici, il produit la guerre, et même davantage la guerre civile. Quand on passe au combat, on ne part pas pour remporter des... On part pour remporter des victoires sur un ennemi, pas pour des guerres civiles. Donc la violence, de ce sens-là, est un échec. Ce n'est pas une victoire. On y part pour vaincre par la violence, mais c'est un échec. Le deuxième cavalier, victoire. On a envie de prospérité, on veut conquérir la richesse, le confort, toutes ces choses-là. Eh bien non. Ce n'est pas du tout l'abondance recherchée, des limites profondes, mais avec des limites. Il y a des choses qui ne sont pas touchées. Le quatrième cavalier, la mort, ce n'est pas tellement une victoire. Hein. C'est vraiment l'échec total. La création entière, elle est sous la malédiction, pas sous la victoire. Il me semble que ce qu'on peut dire de ces cavaliers, de ces images-là, ça nous parle de la violence et de la manière dont notre monde est gouverné par la violence, et les résultats de cette violence sont décrits de cette manière-là. Ce n'est pas quelque chose qui est très encourageant à première vue. Une autre chose qui n'est pas très encourageante, ou qui pose question, c'est qu'on voit clairement dans des passages comme ceux-ci et dans tout l'Apocalypse que c'est Dieu qui envoie ses jugements. C'est Dieu qui envoie ces choses. Ce n'est pas le diable lui-même. Derrière tout, il y a toujours le fait que Dieu contrôle toutes ces choses-là. Et ça, c'est une des vraies questions que cela pose. On a de la peine à imaginer une relation entre un Dieu bon qu'on veut connaître et qu'on connaît comme bon, et puis ces jugements et cette violence-là. Et c'est là que moi j'ai réfléchi et j'ai aimé sa réflexion. Celui qui ouvre ses seaux, c'est pas dit que c'est le lion de Juda, celui de la puissance, c'est dit que c'est l'agneau immolé, l'agneau comme offert en sacrifice. Et je pense que ça donne le caractère vraiment à tout ce déroulement de violence. Deux ou trois idées. En fait, si c'est l'agneau immolé qui ouvre ses seaux, qui permet, qui envoie, si on veut, cette violence dans le monde, l'agneau ouvre la porte à ce qui va l'envoyer à la croix. Sans violence, sans un monde comme celui-ci, la croix n'existe pas. Réfléchissez à ça. J'ai noté ça de cette manière, parce que je crois que ça éclaircit. La croix n'est pas une réponse à la chute. La chute a pour but la croix. Il y a un verset qui dit dans 1 Pierre, je termine juste la fin du verset, par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, c'est un peu ce qu'on a là, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Avant la création du monde, la croix était prévue. Avant la chute, on a trop tendance à penser « Ah, ça s'est mal passé, il y a eu la chute, alors Dieu a trouvé un plan B avec la croix pour récupérer ce qui s'était mal passé. » Ça va dans le sens contraire. Le plan était la croix, la volonté de Dieu, l'idée centrale de Dieu dans la création, c'est la croix. Et la chute, prévue d'avance, ce n'est pas quelque chose qui était une surprise, puisque l'agneau de Dieu était préconnu avant. La chute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis, au travers de la violence, de préparer le cadre, le contexte dans lequel la croix pouvait exister. Vous voyez, remettre les choses à l'envers. Le centre, c'est Dieu. Le centre, c'est la croix. Ce qui honore Dieu, ce qui est dans le cœur de l'histoire de toute la création. La création est là pour but d'avoir la croix. Parce que c'est vraiment la chose la plus extraordinaire que Dieu n'a jamais fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile pour nous de comprendre tout ce qui se passe. C'est parce qu'on voit ça de notre point de vue. Mais si on essaye de le voir du point de vue de Dieu, mettre les priorités comme celles que Dieu a, Mais ça nous rend modeste sur notre manière de voir les choses, mais ça nous dit aussi, il y a quelque chose de grand et de beau là-dedans. Une deuxième pensée, je trouve, en pensant à un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en s'offrant un sacrifice. Comment Jésus a remporté la victoire? Il n'a pas remporté la victoire sur le mal, sur toutes ces choses, par la violence, mais en résistant à être conduit par la violence. Il est resté libre alors que toute la puissance et la violence du monde s'abattaient sur lui. Il est resté libre. Il n'a pas été contraint par toute cette violence pour réagir. Il a marché librement jusqu'à la croix. C'est ce qui est beau dans ce qui se passe au jardin de Gethsémané. On voit, malgré tout, il y a tous des obstacles, Jésus décide, il continue librement, rien ne l'arrête. Face à la violence, la seule résistance, c'est de ne pas réagir par la violence. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. La croix, c'est l'échec de la violence. Parce que c'est le contraire de la violence. Ça a annulé la violence et les fruits de la violence. Et puis, une chose qui est quand même aussi remarquable, c'est que celui qui accomplit ça, l'agneau de Dieu, c'est comme homme qu'il a accompli ça. Il est Dieu, mais c'est comme homme qu'il accomplit ça. Il s'est identifié à l'humanité pour que sa victoire à la croix devienne notre victoire. Si ça a été un de l'ordre de l'humanité, ça aurait peut-être... Bon, c'est des hypothèses qui... ça ne sert à rien de les dire, mais... Non, Dieu a choisi de créer aussi l'humanité pour que dans l'humanité, il puisse y avoir un homme qui devienne l'agneau de Dieu qui est crucifié. Mais ça lie à l'humanité. Sa victoire est notre victoire. Et c'est remarquable parce que c'est un combat qu'on ne pouvait pas mener. Dans un monde de violence, on est violent aussi. Il a fallu Jésus pour aller jusqu'au bout, je dirais, au sens très large, mais de la non-violence. Ça va plus loin que ça, disons, mais refuser d'être contraint par la violence. Mais ça laisse quand même une grande question. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de jugement, mais de jugement par la violence. Les jugements de Dieu sont violents. Ça pose une vraie question, n'est-ce pas? Mais un de ces passages, après les quatre cavaliers là, qui parlent de violence, il y a un nouveau sceau qui s'ouvre pour expliquer le livre, pour le rendre lisible. C'est le cinquième sceau, et je pense qu'il répond partiellement à cette question. Si tu passes la salle suivante. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit complet. C'est peut-être pas évident de trouver une réponse à cette question en lisant ça, mais quand même. Il voit sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas des vivants, c'est des hommes morts. Ça se passe dans le ciel. Et il me semble que ce que ça peut nous dire, c'est aujourd'hui, cette idée de jugement violent, de rétribution, dans certains sens, on la comprend. On sait, le mal, il faut réagir contre le mal. Le mal, il a besoin d'être puni, c'est une chose qu'on réalise. Il doit être jugé. Ce serait scandaleux que le mal reste sans être contré. Mais quand même, quand on parle de ces jugements, des morts, ces scènes de l'Apocalypse qui sont sanglantes, qui sont terribles, quand on pense à l'enfer, c'est une chose qui nous choque profondément, finalement, il y a une réaction négative. Mais si on était dans le ciel, et quand on sera dans le ciel, alors là, on comprendra et on pourra se dire, oui, jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance ? On réalisera ce que c'est que cette vengeance, on comprendra sa logique, mais tant qu'on est sur la terre, on ne la comprend pas. Mais on la comprendra une fois. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation où on est, il n'y aura jamais de réponse à cette, à la fois de Dieu bon et le Dieu violent. Ce n'est pas compréhensible sur terre. Mais ça le sera une fois, où on sera d'accord. Et même, non seulement ils sont d'accord, mais ils poussent en avant. Parce qu'ils réalisent qu'est-ce que c'est que la justice qui est remplie. Enfin, le mal sera totalement compensé, effacé. Ils se réjouissent. On ne comprend pas ça, c'est vrai. Mais il y a quand même deux pistes qui nous sont données. D'abord, une chose, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Les robes blanches, blanchies dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que, ayant reçu comme croyant cette robe blanche, ces jugements ne nous concernent plus. Ils ont été portés par Jésus. Oui, il y a des jugements, oui, il y a des choses qui nous choquent, oui, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais nous, on y échappe. Nous, ce n'est plus le problème. C'est accompli. Ça n'empêche pas notre souci pour ceux qu'on aime, pour ceux qui ne sont pas croyants. On n'a pas envie que nos proches finissent en enfer. Mais dans certains sens, on y échappe. Et on y a échappé parce qu'on a rencontré et reconnu Jésus. Et ce chemin est ouvert à tous. Puis il y a une autre chose que j'ai trouvée aussi intéressante. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore. Rester en repos. Ça veut dire que cette question de jugement, ce n'est pas notre question. C'est Dieu qui à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur dans l'Épître aux Romains. Notre rôle, notre appel, nous, face à cette injustice, face à cette violence, tout ça, ce n'est pas de lutter contre. Ce n'est pas à nous de porter des jugements, ce n'est pas à nous d'exercer la violence. Ça, c'était, quand ces cavaliers représentent la violence, c'était illégitime. Il n'y a que Dieu qui a vraiment le droit, la possibilité d'exercer de la violence en jugement juste. Nous, on ne peut pas le faire. Restez en repos. Soyons calmes devant toutes les injustices, devant toutes les choses violentes. Ce n'est pas notre appel. Donc, on ne va pas comprendre vraiment avant d'arriver devant le Seigneur, mais on est délivré de ces jugements et on n'a pas à participer à ces jugements. Alors, en conclusion, quelles leçons ? Premièrement, alors, je les lis parce que je ne me rappelle plus exactement. L'Apocalypse n'est pas une description de l'histoire future, mais une vision de l'histoire vue du ciel. Je crois que c'est important pour bien lire l'Apocalypse. Pour nous aussi, les victoires ne sont pas par force, par violence, mais en opposition à la force et à la violence. Ne jamais répondre à la violence par la violence, mais rester libre. Et c'est l'enseignement de tout le Nouveau Testament, hein. Face aux obstacles nombreux, qu'est-ce qu'on a ? Tendre l'autre joue, mettre l'autre d'abord, être fidèle, la valeur des sacrifices, la soumission, de la persévérance, etc. chacune de ces choses où on refuse de céder à la violence ou de céder, de réagir à la violence, c'est peut-être des petites choses, mais qui ont une valeur qui nous échappe. Ça nous semble des fois rien, notre acceptation justement de ne pas réagir à la violence, mais ça brille dans le ciel. C'est là qu'on ressemble à Jésus, quand on ne rend pas violence pour violence. Et c'est très, je dirais ça va plus loin que simplement la violence, mais ne pas réagir, rester libre face aux agressions, face aux soucis, rester libre. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en nous, et on a besoin de lui pour cela. Un autre point qui sort très fort de tout l'Apocalypse et qui nous encourage, c'est centrer nos regards sur l'agneau de Dieu. C'est lui la clé de l'histoire, c'est lui qui permet de comprendre. Nous, on est en arrière-fond, mais ce qui est important et ce qui permet de comprendre les choses, c'est Jésus. Et ça se termine par ce verset. « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Il a supporté l'opposition de la part des pécheurs jusqu'au bout, et c'est ça la victoire. À cause de la joie qui lui était réservée. Et pour nous aussi, à cause de la joie qui nous est réservée. Avoir cette attitude et avoir cette foi qu'au travers des mystères que l'on peut obtenir dans nos vies si compliquées, ça a du sens. Ça a du sens. Dieu fait ce qui est juste. Amen.